Sand, Mopra, chapitre 27. L'auditoire fut encore plus nombreux que la première fois. La garde fut forcée aux portes du prétoire et la foule envahit jusqu'aux fenêtres du manoir de Jacques Coeur, aujourd'hui l'hôtel de ville. J'étais fort troublée cette fois, quoique juste la force et la fierté de n'en rien laisser paraître. Je m'intéressais désormais au succès de ma cause et les espérances que j'avais conçues ne semblant pas devoir se réaliser, j'éprouvais un malaise indicible, une fureur concentrée, une sorte de haine contre ces hommes qui n'ouvraient pas les yeux sur mon innocence et contre ce Dieu qui semblait m'abandonner. Dans cet état violent, je fis un tel travail sur moi-même pour paraître calme que je m'aperçus à peine de ce qui se passait autour de moi. Je retrouvai ma présence d'esprit pour répondre dans les mêmes termes que la première fois à mon nouvel interrogatoire. Puis un crêpe funèbre sembla s'étendre sur ma tête. Un anneau de fer me serrait le front. Je sentais un froid de glace dans mes orbites. Je ne voyais plus que moi-même, et je n'entendais plus que des bruits vagues et incompréhensibles. Je ne sais ce qui se passa. Je ne sais si l'on annonça l'apparition qui me frappa subitement. Je me souviens seulement qu'une porte s'ouvrit derrière le tribunal, qu'Arthur s'avança soutenant une femme voilée, qui lui ôta son voile après l'avoir fait asseoir sur un large fauteuil que les huissiers roulèrent vers elle avec empressement, et qu'un cri d'admiration remplit l'auditoire lorsque la beauté pâle et sublime d'Edmée lui apparut. En ce moment, j'oubliais et la foule et le tribunal, et ma cause et l'univers entier. Je crois qu'aucune force humaine n'aurait pu s'opposer à mon élan impétueux. Je me précipitai comme la foudre au milieu de l'enceinte, et, tombant aux pieds d'Edmée, j'embrassai ses genoux avec effusion. On m'a dit que ce mouvement entraîna le public et que presque toutes les dames fondirent en larmes. Les jeunes élégants n'osèrent railler. Les juges furent émus. La vérité eut un instant de triomphe complet. Edmée me regarda longtemps. L'insensibilité de la mort était sur son visage. Il ne semblait pas qu'elle pût jamais me reconnaître. L'assemblée attendit dans un profond silence qu'elle exprimât sa haine ou son affection pour moi. Tout à coup, elle fondit en larmes, jeta ses bras autour de mon cou et perdit connaissance. Arthur la fit emporter aussitôt. Il eut de la peine à me faire retourner à ma place. Je ne savais plus où j'étais, ni de quoi il s'agissait. Je m'attachais à la robe d'ennemi et je voulais la suivre. Arthur, s'adressant à la cour, demanda qu'on fît constater de nouveau l'état de la malade par les médecins qu'il avait examinés dans la matinée. Il demanda et obtint qu'Edmée fût de nouveau appelée en témoignage et confrontée avec moi lorsque la crise qu'elle subissait en cet instant serait passée. « Cette crise n'est pas grave, dit-il. Mademoiselle de Maupra en a éprouvé plusieurs du même genre ces jours derniers et pendant son voyage. » À la suite de chacun de ses accès, ses facultés intellectuelles ont pris un développement de plus en plus heureux. « Allez donner vos soins à la malade, dit le président. Elle sera appelée dans 2 heures si vous croyez que ce temps suffise pour mettre fin à son évanouissement. En attendant, la cour entendra le témoin à la requête duquel le premier jugement n'a point reçu d'exécution. » Arthur se retira et Patience fut introduit. Il était vêtu proprement, mais après avoir dit quelques paroles, il déclara qu'il lui était impossible de continuer si on ne lui permettait pas d'ôter son habit. Cette toilette d'emprunt le gênait tellement et lui semblait si lourde qu'il suait à grosses gouttes. Il attendit à peine un signe d'adhésion accompagné d'un sourire de mépris que lui fit le président pour jeter à terre ses insignes de la civilisation et, abaissant avec soin les manches de sa chemise sur ses bras nerveux, il parla à peu près ainsi. « Je dirai la vérité, toute la vérité. Je lève la main une seconde fois, car j'ai à dire des choses qui se contredisent et que je ne peux pas m'expliquer moi-même. Je jure devant Dieu et devant les hommes que je dirai ce que je sais, comme je le sais, sans être influencé pour ni contre personne. » Il leva sa large main et se tourna vers le peuple avec une confiance naïve comme pour lui dire « Vous voyez tous que je jure, et vous savez que l'on peut croire en moi. » Cette confiance de sa part n'était pas mal fondée. On s'était beaucoup occupé, depuis l'incident du premier jugement, de cet homme extraordinaire qui avait parlé devant le tribunal avec tant d'audace et harangué le peuple en sa présence. Cette conduite inspirait beaucoup de curiosité et de sympathie à tous les démocrates et philadelphes. Les œuvres de Beaumarchais avaient, auprès des hautes classes, un succès qui vous expliquera comment Patience, en opposition avec toute la puissance de la province, se trouvait soutenue et applaudie par tous ceux qui se piquaient d'un esprit élevé. Chacun croyait voir en lui Figaro sous une nouvelle forme. Les bruits de ses vertus privées s'étaient répandus, car vous vous souvenez que, durant mon séjour en Amérique, Patience s'était fait connaître aux habitants de la Varenne et avait échangé sa réputation de sorcier contre celle de bienfaiteur. On lui avait donné le surnom de grand juge, parce qu'il intervenait volontiers dans les différends, et elle terminait à la satisfaction de chacun avec une bonté et une habileté admirables. Il parla cette fois d'une voix haute et pénétrante. Il avait dans la voix plusieurs belles cordes. Son geste était lent ou animé selon la circonstance, toujours noble et saisissant. Sa figure courte et socratique était toujours belle d'expression. Il avait toutes les qualités de l'orateur, mais il ne mettait à les produire aucune vanité. Il parla d'une manière claire et concise qu'il avait acquise nécessairement dans son commerce récent avec les hommes et dans la discussion de leurs intérêts positifs. « Quand Mademoiselle Maupras reçut le coup, dit-il, j'étais à 10 pas tout au plus. Mais le taillis est si épais dans cet endroit que je ne pouvais rien voir à 2 pas de moi. On m'avait engagé à faire la chasse. Cela ne m'amusait guère. Me trouvant près de la tour Gazeau, que j'ai habitée pendant 20 ans, j'eus envie de revoir mon ancienne cellule, et j'y arrivais à grands pas quand j'entendis le coup. Cela ne m'effraya pas du tout, c'était si naturel qu'on fît du bruit dans une battue. Mais quand je fus sorti du fourré, c'est-à-dire environ 2 minutes après, je trouvai Elmé. Pardonnez-moi, j'ai l'habitude de l'appeler comme cela. Je suis avec elle, comme qui dirait une sorte de père nourricier. Je trouvai Elmé à genoux, par terre, blessé, ainsi qu'on vous l'a dit, et tenant encore la bride de son cheval qui se cabrait. Elle ne savait pas si elle avait peu ou beaucoup de mal. Mais elle avait son autre main sur sa poitrine et disait « Bernard, c'est affreux. Je ne vous aurais jamais cru capable de me tuer. Bernard, où êtes-vous? Venez me voir mourir. Vous tuez mon père. » Elle tomba tout à fait en disant cela et lâcha la bride de son cheval. Je m'élançai vers elle. « Ah, tu l'as vu, patience, me dit-elle. N'en parle pas. Ne dis pas à mon père. » Elle étendit les bras, son corps se roidit. Je la crus morte. Et elle ne parla plus que dans la nuit, après qu'on eut retiré les balles de sa poitrine. Vite-vous alors, Bernard de Maupras. Je le vis sur le lieu de l'événement, au moment où Edmé perdit connaissance et sembla rendre l'âme. Il était comme fou. Je crus que c'était le remords qui l'accablait. Je lui parlai durement, je le traitai d'assassin. Il ne répondit rien, et s'assit à terre auprès de sa cousine. Il resta là, abruti, longtemps encore après qu'on l'eût emporté. Personne ne songea à l'accuser. On pensait qu'il était tombé du cheval, parce qu'on voyait son cheval courir au bord de l'étang. On crut que sa carabine s'était déchargée en tombant. Mais l'abbé Aubert fut le seul qui entendu accuser M. Bernard d'avoir assassiné sa cousine. Les jours suivants, Edmé parla, mais ce ne fut pas toujours en ma présence. Et d'ailleurs, depuis ce moment, elle eut presque toujours le délire. Je soutiens qu'elle n'a confié à personne, à Mademoiselle Leblanc moins qu'à personne, ce qui s'était passé entre elle et M. de Maupras avant le coup de fusil. Elle ne me l'a pas confié plus qu'aux autres. Dans les moments bien rares où elle avait sa tête, elle répondait à nos questions que certainement Bernard ne l'avait pas fait exprès, et plusieurs fois même, durant les 3 premiers jours, elle demanda à le voir. Mais quand elle avait la fièvre, elle criait « Bernard, Bernard, vous avez commis un grand crime, vous avez tué mon père !» C'était là son idée. Elle croyait réellement que son père était mort. Elle l'a cru longtemps. Elle a donc dit très peu de choses qui aient de la valeur. Tout ce que Mademoiselle Leblanc lui a fait dire est faux. Au bout de 3 jours, elle a cessé de dire des paroles intelligibles. Et au bout de 8 jours, sa maladie a tourné à un silence complet. Elle a chassé Mademoiselle Leblanc depuis 7 jours qu'elle a retrouvé sa raison, ce qui prouverait bien quelque chose contre cette fille de chambre. Voilà ce que j'ai à dire contre M. de Maupras. Il ne tenait qu'à moi de le taire, mais ayant autre chose à dire encore, j'ai voulu révéler toute la vérité. Patience fit une pause. L'auditoire et la cour elle-même, qui commençaient à s'intéresser à moi et à perdre l'âcreté de ses préventions, restèrent comme atterrés d'une déposition si différente de celle qu'on attendait. Patience reprit la parole. Je suis resté convaincu pendant plusieurs semaines, dit-il, du crime de Bernard. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi à cela. Je me suis dit bien des fois qu'un homme aussi bon et aussi instruit que l'était M. Bernard, un homme dont Edmé faisait tant d'estime, et que monsieur le chevalier de Maupras aimait comme un fils, un homme enfin qui avait tant d'idées sur la justice et sur la vérité, ne pouvait pas du jour au lendemain devenir un scélérat. Et puis, il m'est venu l'idée que ce pouvait bien être quelque autre Maupras qui eût fait le coup. « Je ne parle pas de celui qui est trappiste, » ajouta-t-il en cherchant dans l'auditoire Jean de Maupras, qui n'y était pas. « Je parle de celui dont la mort n'a pas été constatée, quoique la cour ait cru devoir passer outre et en croire sur parole M. Jean de Mauprat. « Témoin, dit le président, je vous ferai observer que vous n'êtes ici ni pour servir d'avocat à l'accusé, ni pour réviser les arrêts de la cour. Vous devez dire ce que vous savez du fait, et non ce que vous préjugez du fond de l'affaire. »«
Possible, répondit Patience. Il faut pourtant que je dise pourquoi je n'ai pas voulu témoigner la première fois contre Bernard, n'ayant à fournir que des preuves contre lui, et n'ayant pas à foi ses preuves mêmes.
On ne vous le demande pas pour le moment. Ne vous écartez pas de votre déposition. À l'instant, j'ai mon honneur à défendre. J'ai ma propre conduite à expliquer, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas l'accusé. Vous n'avez pas lieu à plaider votre propre cause. Si la cour juge à propos de vous poursuivre pour votre désobéissance, vous aviserez à vous défendre. Mais il n'est pas question de cela maintenant.
Il est question de faire savoir à la cour si je suis un honnête homme ou un faux témoin.
Pardon, il me semble que cela fait quelque chose à l'affaire. La vie de l'accusé en dépend. La cour ne peut pas regarder cela comme indifférent.
Parlez, dit l'avocat du roi, et tâchez de garder le respect que vous devez à la cour.
Je n'ai pas envie d'offenser la cour, reprit Patience. Je dis seulement qu'un homme peut se soustraire aux ordres de la cour par des raisons de conscience que la cour peut condamner légalement, mais que chaque juge en particulier peut comprendre et excuser. Je dis donc que je n'ai pas senti en moi-même que Bernard de Mauprat fut coupable. Mes oreilles seules le savaient. Ce n'était pas assez pour moi. Excusez-moi, messieurs, je suis juge, moi aussi. Enquérez-vous de moi. Dans mon village, on m'appelle le grand juge. Quand mes concitoyens me prient de prononcer sur une querelle de cabaret ou sur la limite d'un champ, je n'écoute pas tant leurs sentiments que le mien. On a d'autres notions sur les gens qu'un fait tout court. Il y en a beaucoup d'autres qui servent à démontrer la vérité ou la fausseté du dernier qu'on leur impute. Ainsi, ne pouvant croire que Bernard fut un assassin, et ayant entendu témoigner à plus de 10 personnes, que je regarde comme incapables de faux serments, qu'un moine fait en manière de Mauprat avait couru le pays, ayant moi-même vu le dos et le froc de ce moine passer à Pouligny le matin de l'événement, j'ai voulu savoir s'il était dans la Varenne. Et j'ai su qu'il y était encore, c'est-à-dire qu'après l'avoir quitté, il y était revenu aux environs du jugement du mois dernier, et qui plus est, qu'il avait été acquaintance avec M. Jean de Mauprat.
« Quel est donc ce moine ?» me disais-je.
« Pourquoi sa figure fait-elle peur à tous les habitants du pays ? Qu'est-ce qu'il fait dans la Varenne ? S'il est du couvent des Carmes, pourquoi n'emporte-t-il pas l'habit ? S'il est de l'ordre de M. Jean, pourquoi n'est-il pas logé avec lui au Carmes ? S'il est quêteur, pourquoi, après avoir fait sa quête, ne va-t-il pas plus loin, plutôt que de revenir importuner les gens qui lui ont donné la veille ? S'il est trappiste, et qu'il ne veuille pas rester au Carmes, comme l'autre, pourquoi ne retourne-t-il pas dans son couvent ? Qu'est-ce donc que ce moine vagabond ? Et pourquoi M. Jean de Mauprat, qui a dit à plusieurs personnes ne pas le connaître, le connaît-il si bien qu'ils déjeunent de temps en temps ensemble dans un cabaret à Crevant ? J'ai donc voulu alors que ma déposition fût faite, même dût-elle nuire en partie à Bernard, afin d'avoir le droit de dire ce que je vous dis là, même quand cela ne servirait à rien. Mais comme vous autres, vous ne donnez jamais le temps aux témoins de chercher à s'éclairer sur ce qu'ils ont à croire, je suis reparti tout de suite pour mes bois, où je vis à la manière des renards, me promettant de n'en pas sortir tant que je n'aurais pas découvert ce que ce moine fait dans le pays. Je me suis donc mis sur sa piste, et j'ai découvert ce qu'il est. Il est l'assassin d'Edmé de Mauprat, il s'appelle Antoine de Mauprat. Cette révélation causa un grand mouvement dans la cour et dans l'auditoire. Tous les regards cherchèrent Jean de Mauprat, dont la figure ne parut point.
« Quelles sont vos preuves ? » dit le président.
« Je vais vous les dire, » répondit Patience. Sachant par la cabartière de Crevant, à qui j'ai eu occasion de rendre service, que les deux trappistes déjeunaient chez elle de temps en temps, comme je vous l'ai dit, j'ai été me loger à une demi-lieue de là, dans un ermitage qu'on appelle le Trou aux Fades, et qui est au milieu des bois, abandonné au premier venu, logis et mobilier. C'est une caverne dans le rocher, avec une grosse pierre pour s'asseoir et rien avec. J'ai vécu là 2 jours de racines et d'un morceau de pain qu'on m'apportait de temps en temps du cabaret. Il n'est pas dans mes principes de demeurer dans un cabaret. Le 3e jour, le petit garçon de la cabaretière vint m'avertir que les 2 moines allaient se mettre à table. J'y courus et je me cachai dans un cellier qui touche au jardin. La porte de ce cellier est ombragée d'un pommier, sous lequel ces messieurs déjeunaient en plein air. Monsieur Jean était sobre. L'autre mangeait comme un carme et buvait comme un cordelier. J'entendis et je vis tout à mon aise. « Il est temps que cela finisse, » dit cet Antoine, que je reconnus fort bien en le voyant boire et en l'entendant jurer. « Je suis là du métier que vous me faites faire. Donnez-moi asile chez les carmes, où je fais du bruit. »« Et quel bruit pouvez-vous faire qu'il vous conduise à la roue, lourde bête ?» lui répondit Monsieur Jean. « Soyez sûr que vous ne mettrez pas les pieds aux carmes. Je ne me soucie pas de me voir inculpé dans un procès criminel, car on vous découvrirait là au bout de 3 heures.
Pourquoi donc, s'il vous plaît? Vous le faire bien croire que vous êtes un saint.
Je suis capable de me conduire comme un saint, et vous vous conduisez comme un imbécile. Est-ce que vous pouvez vous tenir une heure de jurer et de casser des pots après dîner?
Dites donc, Nepomucène, est-ce que vous espériez sortir de là bien net si j'avais une affaire criminelle, reprit l'autre?
Qui sait, répondit le trappiste. Je n'ai point pris part à votre folie, ni conseillé rien de ce genre.
Ah, le bon apôtre, s'écria Antoine, en se reversant de rire sur sa chaise. Vous en êtes bien content à présent que cela est fait. Vous avez toujours été un lâche, et sans moi, vous n'auriez imaginé rien de mieux que d'aller vous faire trappiste pour singer la dévotion et venir ensuite vous faire absoudre du passé afin d'avoir le droit de tirer un peu d'argent au casse-tête de Saint-Sévère. Belle ambition, ma foi, que de crever sous un froc après s'être gêné toute sa vie et n'avoir pris que la moitié de tous les plaisirs, encore en se cachant comme une taupe. Allez, allez, quand on aura pendu le gentil Bernard, que la belle Edmonde sera morte et que le vieux casse-cou aura rendu ses grands os à la terre, quand nous hériterons de cette jolie fortune-là, vous trouverez que cela est un bien joli coup de Jarnac, se défaire de trois à la fois. Il m'en coûtera bien un peu de faire le dévot, moi qui n'ai pas les habitudes du couvent et qui ne sais pas porter l'habit. Aussi, je jetterai le froc aux orties et je me contenterai de bâtir une chapelle à la Roche-Mauprat et d'y communier quatre fois l'an. Tout ce que vous avez fait là est une sottise et une infamie.
Ouais, ne parlez pas d'infamie, mon doux frère, ou je vais vous faire avaler cette bouteille toute cachetée.
Je dis que c'est une sottise, et que si cela réussit, vous devez une belle chandelle à la Vierge. Si cela ne réussit pas, je m'en lave les mains, entendez-vous?
Quand j'étais caché dans la chambre secrète du donjon, et que j'ai entendu Bernard conter à son valet, après souper, qu'il perdait l'esprit pour la belle ennemée, je vous ai dit en l'air qu'il y aurait là un joli coup à faire. Et comme une brute, vous avez pris la chose au sérieux. Vous avez été, sans me consulter et sans attendre un moment favorable, exécuter une chose qui voulait être pesée et mûrie.
Le moment favorable, cœur de lièvre que vous êtes, et où donc l'aurais-je trouvé? L'occasion fait le larron. Je me vois surpris par la chasse au milieu du bois, je me cache dans la maudite tourgazon, je vois arriver mes deux tourtereaux, j'entends une conversation à crever de rire, Bernard larmoyant, la fille faisant la fière. Bernard se retire comme un sot, sans avoir fait métier d'homme. Je me trouve sur moi, le bon Dieu sait comment, un scélérat de pistolet tout chargé. Paf!
Taisez-vous, bête sauvage, dit l'autre tout effrayé. Parle-t-on de ces choses-là dans un cabaret? Tenez votre langue, malheureux, ou je ne vous verrai plus.
Il faudra bien pourtant que vous me voyez, mon doux frère, quand j'irai sonner et faire carillon à la porte des Carmes.
Vous n'y viendrez pas ou je vous dénonce?
Vous ne me dénoncerez pas, car j'en sais trop long sur votre compte.
Je ne vous crains pas, j'ai fait mes preuves, j'ai expié mes péchés.
Hypocrite!
« Allons, taisez-vous, insensé, dit l'autre. Il faut que je vous quitte. Voilà de l'argent. »«
Tout cela? Que voulez-vous que vous donne un religieux? Croyez-vous que je sois riche?
Vos carmes le sont, et vous en faites ce que vous voulez. »«
Je pourrais vous donner davantage que je ne le ferai pas. Vous n'auriez pas plutôt deux louis que vous feriez des débauches et un bruit qui vous trahirait. »«
Et si vous voulez que je quitte le pays pour quelque temps, avec quoi voulez-vous que je voyage?
Ne vous ai-je pas déjà trois fois donné de quoi partir? Et n'êtes-vous pas revenu après avoir bu tout ce que vous aviez dans le premier mauvais lieu à la frontière de la province? Votre impudence me révolte, après les dépositions qu'on a faites contre vous, quand la maréchaussée à l'éveil, quand Bernard fait réviser son jugement et que vous allez être découvert.
Mon frère, c'est à vous d'y veiller. Vous menez les Carmes. Les Carmes mènent l'évêque. Dieu sait pour quelle petite folie qui a été faite de compagnie, en grand secret, après souper, dans leur couvent.
Ici, le président interrompit le récit de patience.
Témoin, dit-il, je vous rappelle à l'ordre. Vous outragez la vertu d'un prélat par le récit scandaleux d'une telle conversation.
Nullement, répondit Patience. Je rapporte les invectives d'un crapuleux et d'un assassin contre le prélat. Je n'en prends rien sur moi, et chacun ici sait le cas qu'il y a en faire. Mais, si vous le voulez, je n'en dirai pas davantage sur ce sujet. Il y eut encore un assez long débat. Le vrai trappiste voulait faire partir le faux trappiste, et celui-ci s'obstinait à rester, disant que s'il n'était pas sur les lieux, son frère le ferait arrêter aussitôt après que Bernard aurait la tête tranchée, afin d'avoir l'héritage à lui tout seul. Jean, poussé à bout, le menaça sérieusement de le dénoncer et de le délivrer à la justice.
« Baste, vous vous en garderez bien après tout, reprit Antoine, car si Bernard est absous, adieu l'héritage !»
C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Le vrai trappiste s'en alla fort soucieux, l'autre s'endormit les coudes sur la table. Je sortis de ma cachette pour procéder à son arrestation. C'est dans ce moment que la maréchaussée, qui est à mes trousses depuis longtemps pour me forcer à venir témoigner, me mit la main au collet. J'eus beau désigner le moine comme l'assassin d'Edmé, On ne voulut pas me croire, et on me dit qu'on n'avait pas d'ordre contre lui. Je voulais ameuter le village, on m'empêcha de parler. On m'amena ici de brigade en brigade comme un déserteur. Et depuis 8 jours, je suis au cachot, sans qu'on daigne faire droit à mes réclamations. Je n'ai même pas pu voir l'avocat de M. Bernard et lui faire savoir que j'étais en prison. C'est tout à l'heure seulement que le geôlier est venu me dire qu'il fallait endosser un habit et qu'on part voir. Je ne sais pas si tout cela est dans les formes de la justice, mais ce qu'il y a de certain, c'est que l'assassin aurait pu être arrêté et qu'il ne l'est pas, et qu'il ne le sera pas, si vous ne vous assurez de la personne de M. Jean de Beauprat pour l'empêcher d'avertir, je ne dis pas son complice, mais son protégé. Je fais serment que, dans tout ce que j'ai entendu, M. Jean de Beauprat est à l'abri de tout soupçon de complicité. Quant à l'action de laisser livrer à la rigueur des lois un innocent et de vouloir sauver un coupable au point de feindre sa mort par de faux témoignages et de faux actes, Patience, voyant que le président allait encore l'interrompre, se hâta de terminer son discours en disant « Quant à cela, messieurs, il appartient à vous et non à moi de juger.